Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mimo et bienvenue sur le droit en 3 minutes. Aujourd'hui, on va faire du droit civil, droit de la famille. Et je voulais juste vous dire que vous allez peut-être entendre du bruit de fond. C'est juste qu'il fait trop chaud chez moi et du coup, j'ai dû ouvrir ma fenêtre et j'ai quand même beaucoup de choses à enregistrer. Donc, ça ne devrait pas être trop dérangeant. Du coup, la liberté matrimoniale. En droit français, l'institution du mariage vient consacrer l'union entre deux personnes qui ont pour but la solidarité réciproque basée sur l'affection mutuelle. Historiquement, le mariage est un pilier de la société au point qu'il est devenu une liberté fondamentale. Concernant la liberté du mariage, c'est une liberté fondamentale. Et en droit français, la liberté de se marier, c'est considéré, comme j'ai dit, une liberté fondamentale. On en trouve aussi bien la preuve dans le droit positif à l'échelle européenne et internationale que dans la jurisprudence. Une ordonnance de référé du 9 juillet 2014, le Conseil d'État ordonne la délivrance d'un visa d'entrée en France à un ressortissant étranger afin de lui permettre de venir se marier dans notre pays en invoquant la liberté de se marier, laquelle est une liberté fondamentale. L'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Donc, même si certains contrats prévoient une clause de non-convol qui interdit le mariage, comme les clauses de célibat ou de remariage, ces clauses sont considérées comme nulles car attentatoires à un droit fondamental de la personnalité, sauf à pouvoir justifier de raisons impérieuses et évidentes, ce qui n'est pas évident. Bien sûr, ça ne signifie pas que le mariage est libre de toute règle, il faut respecter certaines conditions de fond et certaines conditions de forme. Par exemple, le fait d'être majeur et consentant, de ne pas épouser un proche, etc. Il est aussi utile de préciser que la liberté de choix du conjoint est la règle en France. Chacun est libre de choisir celui ou celle qui sera son époux et nul ne peut épouser quelqu'un d'autre sous la contrainte. Cela étant, d'un point de vue sociologique, n'importe qui n'épousera pas n'importe qui, puisque n'importe qui ne rencontre pas n'importe qui. Concernant les fiançailles, la rupture des fiançailles, ça représente une promesse que se fait le couple de se prendre pour époux. Formellement, elles ne sont pas prévues dans le code civil, mais ça signifie qu'il n'y a pas de lien juridique entre les futurs époux à ce stade. On ne peut pas contraindre celui ou celle qui changerait d'avis à tenir sa promesse malgré tout. En France, le principe est la liberté du mariage, c'est-à-dire qu'une fiancée ou un fiancé récalcitrant ne peut être obligé d'accepter l'échange des consentements. Par contre, en cas de rupture des fiançailles, le droit français autorise la personne lésée à demander réparation du préjudice subi, à condition bien entendu de prouver que les circonstances particulières de la rupture constituent une faute dommageable selon le droit commun de la responsabilité civile. Selon la jurisprudence, il y a faute lorsqu'il y a caprice ou légèreté, une rupture imprévisible ou avec grossièreté, ou une rupture imprévisible et tardive. En revanche, il n'y a pas de faute lorsque la rupture, même si elle est tardive, est provoquée par une faute antérieure du fiancé délaissé. Et du coup, la réparation demandée peut concerner un préjudice matériel, comme les dépenses engagées en vue du mariage, ou un préjudice moral, c'est les troubles psychologiques suite à une rupture, une atteinte à la réputation, etc. Quant à la bague, il faut en principe la rendre. L'article 1088 du Code civil dispose que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage n'en s'ensuit pas. Et du coup, ça pose la question du courtage matrimonial. Le courtage matrimonial consiste à ce qu'un professionnel serve d'intermédiaire entre deux personnes et organise leur rencontre au vu d'un mariage éventuel. En pratique, ce courtier matrimonial est simplement un professionnel disposant d'un fichier client qui propose d'organiser des rencontres entre ceux dont les profils paraissent compatibles. La réglementation de cette profession a été abrogée par une ordonnance de 2016, mais quelques règles demeurent applicables. Le courtage matrimonial ne doit pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs, par exemple en proposant des mises en relation pour des relations sexuelles sans lendemain. L'objectif doit toujours être le mariage, ou au moins une union stable, sans quoi on parle de proxénétisme, qui est illégal. L'exemple que je peux vous donner, c'est l'émission qu'avait fait TF1, c'était « Marié au premier regard ».
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram, Le Droit en 3 minutes. Encore merci aux éditions Henrik B qui nous permettent de continuer le podcast cette année. Vous pouvez retrouver le lien de leur boutique dans la description pour leurs livres de révision, de cours ou d'autres surprises dans leur collection Le Meilleur du Droit. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'était Mimo, à plus!